Abbé Philippe Bétia, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes le chancelier du diocèse et vous venez nous parler aujourd'hui de la solennité de l'Assomption, puisque c'est cette fête que nous célébrons aujourd'hui. Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est une solennité? Pourquoi est-ce que c'est une fête si importante pour nous chrétiens?
Bon, pédagogiquement, l'Église a suivi un peu ce que rapporte l'Évangile de Saint-Luc. La célébration de la résurrection de Jésus à Pâques. Saint-Luc nous dit que 40 jours après, il y a donc l'ascension du Seigneur. Et 50 jours après, la Pentecôte, vous regardez le calendrier, c'est exactement ce timing, si j'ose dire, qui est respecté.
Et c'est le temps pascal, c'est ça? Ça s'appelle le temps pascal jusqu'à la Pentecôte?
Voilà, le temps pascal, bon, c'est 7 semaines. 7 fois 7, 49, le chiffre 7 qui indique une plénitude, plus 1, 50. Donc quelque chose qui va au-delà de la plénitude. Et à travers ce calcul, c'est bien sûr la vie divine, la vie des ressuscités qui est donc, pour ainsi dire, annoncée.
Donc l'ascension, c'est 40 jours après Pâques. Le Christ qui monte au ciel.
Alors voilà, bon, on a deux récits de l'ascension, dont un dans l'évangile de Luc, et un autre, toujours chez Luc, mais dans le livre des Actes des Apôtres. Bon, ça, 40 jours, c'est aussi symbolique, ça veut dire que le Christ s'est révélé durant la première génération des apôtres en certain temps. Et qu'ensuite, on est entré vraiment dans le temps de l'Église, c'est-à-dire que bon, il a disparu, on n'a plus eu, si j'ose dire, les visions du ressuscité. Et donc, ce que veut nous dire cette fête, il y a plusieurs choses. D'une part, la liturgie va nous dire que l'ascension du Christ, c'est notre victoire, mais c'est déjà la sienne. Voilà, la victoire du Christ sur la mort, la victoire du Christ sur le péché, la victoire du Christ sur le démon. Le fait qu'il monte au ciel, bon, le ciel, c'est le domaine de Dieu. Autrement dit, l'humanité de Jésus est glorifiée, voilà. Ce qu'on retrouve chez Saint Jean, hein, donne-moi la gloire que je partageais avec toi depuis avant la fondation du monde. Donc l'Église va contempler le Christ victorieux, mais ça annonce notre propre victoire.
Notre propre résurrection.
Notre propre résurrection, notre propre salut par la délivrance du péché et du démon. Et l'Église nous montre un peu, si j'ose dire, ce que le Christ fait au ciel. Voilà. Il est notre médiateur, c'est-à-dire tout à fait du côté de Dieu, tout à fait du côté des hommes. Il établit en sa personne le lien. Il est notre grand prêtre. On le dit dans la liturgie, il intercède pour nous, voilà. Il adore le Père pour nous, il intercède pour nous, il demande pardon pour nos péchés. Il demande pour l'Église et pour l'ensemble des hommes ce qui leur est nécessaire, donc le grand prêtre. Et quand les anges s'adressent aux apôtres le jour de l'ascension, ils disent que ce Jésus reviendra. Donc, l'Église a l'espérance du retour du Christ comme juge des vivants et des morts.
Quand Jésus est ressuscité, donc pendant ces 40 jours où il est apparu aux apôtres, il était toujours homme, mais il n'avait pas le corps d'avant sa mort. Est-ce que l'Église sait si ce corps-là, ce sera le même quand le Christ reviendra, ou ce sera encore différent?
C'est-à-dire que, à sa résurrection, la puissance de vie du ressuscité saisit le corps historique de Jésus. Mais s'il est saisi, si cette puissance de vie saisit ce corps, ça veut dire que nos yeux de chair ne peuvent pas le voir. Donc ça veut dire que le Christ lui-même est obligé d'agir pour que les apôtres, Marie-Madeleine, enfin un tas de monde, puissent le voir, le reconnaître. Mais c'est bien sûr son corps historique. Pensez à l'apparition à Thomas, il montre ses plaies. Donc c'est le crucifié qui est le ressuscité. Voilà. Donc, mais ça, nos yeux de chair ne peuvent pas le voir.
Et c'est ce corps qu'il aura à la fin du monde, à la résurrection.
C'est ce corps qu'il a, qui est glorifié, si j'ose dire, qui est son corps définitif. Ça veut dire que la seconde personne de la Sainte Trinité, le Fils, est désormais présente dans l'incarnation. Autrement dit, qu'elle a pris, si j'ose dire, bon, le terme n'est pas très exact, elle a assumé l'humanité, du sein de la Vierge, et que désormais, c'est sous cette forme-là que la seconde personne de la Sainte Trinité, du Fils, se présentera, et ça pour toujours.
Et puis, comme vous le dites, on peut donc maintenant prier le Christ, le Fils, comme intercesseur, voilà. Vraiment intercesseur pour nous, auprès du Père.
C'est ça. Et par ailleurs, bien sûr, par son ascension, bah autrefois Jésus était présent en Palestine et son action, c'était quand même dans un petit pays, dans un petit milieu. Aujourd'hui le jour, par son ascension, bien, il dépasse le temps et l'espace, et par le fait même, il est présent non seulement à son Église, mais aussi à tout homme. Donc, la liturgie va faire le lien entre l'ascension et le Christ comme tête, comme chef du corps mystique. Chef du corps mystique, bon, pour les anciens, la vie venait, si j'ose dire, du cerveau. C'est ce que, bon, chez Saint Paul. Donc, à travers le fait que le Christ est le chef, la tête du corps mystique, ça veut dire que son Église reçoit sa vie par sa parole, par les sacrements, par l'action de ses ministres, qu'elle reçoit toute son efficacité du Christ. Et bien sûr, il y a la promesse de l'Esprit Saint par le don qu'il va faire de l'Esprit. Mais aussi, pour tout le monde n'est pas dans l'Église, le Christ glorieux va faire germer dans les religions, les cultures, les pays qui ne sont pas marqués par le christianisme, il va faire germer la vérité, il va faire germer la justice, la paix, et il va faire germer les valeurs spirituelles et morales, en les purifiant bien sûr, que comportent ces pays, ces cultures, ces religions.
Donc il y a une valeur universelle.
Il y a une valeur universelle.
Alors aujourd'hui, donc, il y a une messe, c'est la messe de l'Ascension. Quelle est la liturgie qui est prévue pour cette messe?
Donc, ce qui est frappant pour les évangiles des années A, B et C, surtout A et B, je crois, c'est que on insiste sur l'envoi en mission par le Christ des apôtres et donc de l'Église. Voilà ce que disent les anges. Écoutez, c'est inutile de regarder le ciel, il reviendra, mais maintenant, voilà, c'est votre tâche, voilà, d'annoncer le Christ, de faire connaître, de faire vivre la vie du Christ, voilà. La finale de Saint-Matthieu, aller annoncer l'évangile à toutes les nations en leur faisant connaître la parole du Christ, baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Voilà. Donc avant même la Pentecôte, les apôtres sont envoyés en mission.
Voilà, les apôtres sont envoyés en mission avant la Pentecôte, Mais bon, on peut dire que les apôtres, spirituellement, c'est encore des convalescents. Ils n'ont pas tout à fait la force de faire cela. Donc on va Jésus leur dit d'attendre celui que le Père a promis. On va quand même se calfeutrer dans le cénacle. On ne sait pas trop. Et avec la venue de l'Esprit-Saint, on passe de la convalescence à l'état de santé. Mmh. Voilà. C'est le début de l'Église, c'est l'annonce explicite du Christ. On voit dans les Actes des Apôtres un peu tous les ennuis que les apôtres ont pu avoir. On peut penser, bien sûr, aux martyrs des apôtres, notamment celui de Pierre et de Paul à Rome, qui est attesté. Et bien sûr, la grâce de la Pentecôte est aussi vivace aujourd'hui qu'au jour de la Pentecôte. Voilà. Tout ce que fait l'Église, on fait d'évangélisation, on fait d'humanisation, on fait de divinisation, malgré les difficultés, malgré les persécutions. Mmh.
Donc pour cette messe, c'est le récit de la montée au ciel.
La montée au ciel. Après, il y a bien sûr, dans les lettres de Paul, la seconde lecture, une méditation sur cela, un peu dans les thèmes que je viens de développer. Et les années A et B, c'est axé sur l'envoi en mission. Et si mes souvenirs sont bons, l'année C, plutôt, une espèce de récapitulatif, de Christ qui devait connaître la mort, entrer dans sa gloire, etc. Enfin.
Merci beaucoup, Abbé Philippe Bétia, pour ces précisions et très bonne fête de l'Ascension.